RFI.
Este ora 11 și 25 de minute la RFI. În această seară, la ora 20, la sala Apollo 111, va avea loc o nouă sesiune de ascultare a Sâmbetei Sonore. Artistul pe care îl veți întâlni se numește Felix Blum, vine din Franța, lucrează între Franța și Mexic și chiar și Belgia, din câte am aflat eu. Mă bucur foarte mult că Felix Blum este în studioul nostru. A venit aici împreună cu Ana Maria Pravicencu de la Asociația Jumătatea Plină, organizatoarea Sâmbetei Sonore. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru vizita voastră. Bonjour et merci de votre visite.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Ah, voilà, une petite semaine de Sonic Future et voilà le roman qui parle. O să explicăm în primul rând care este contextul acestei vizite și mai ales ce ați făcut în ultima săptămână, pentru că ați fost într-un grup restrâns la într-un workshop, de fapt, nu?
Într-un workshop și rezidență în același timp, deci cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național, am reușit să organizăm o primă tabără de creație sonoră și field recording, deci înregistrări de teren cu scop artistic, în cadrul Sâmbetei Sonore, dar și a programului Semi-Silent, a platformei de creație sonoră, documentar sonor de creație și free recording, semisilent.ro. Și cu invitatul de onoare, Felix Blum, și încă o mână de artiști aleși pe sprânceană, și o să le zic numele pentru că înainte de prezentarea lui Felix din seara asta vom asculta o selecție din piesele produse la rezidență de artiștii participanți. Sunt, bine, prietenei Sâmbetei Sonore, să recunoașteți mai multe nume: Mara Mărăcinescu, Maria Balabaș, Simina Oprescu, un artist din Târgu Mureș, Jolt Șuto, Octava Vramescu, eu, Ana Maria Pravicencu, și o artistă din Brazilia, Sara Lana. Am fost găzduiți de... E un loc... Nu credeam că există așa loc frumos. E Conaco Tetelișanu, care este gestionat de Fundația Domeniu Tetelișanu. E un mic paradis cu lac, cu vie, cu livadă, cu viață la țară, cu arhitectură perfect restaurată. E o oază de liniște în care am putut descoperi o varietate foarte largă de microfoane. Am stat 10 zile, am făcut înregistrări în zori, noaptea, peste zi. Am stat de vorbă cu agricultorii, am ascultat insectele și am produs multe piese. Și acum ne-am întors pe 18 și azi ne întâlnim practic cu publicul bucureștean să-l cunoască pe Felix Blum, pe care noi îl cunoaștem încă din, cred, în 2014, de când a câștigat premiul Fonugia Nova cu lucrarea Le Gritos de Mexico, Le Cri de Mexic, Strigătele din Mexic. Și de atunci tot ne străduim să-l invităm și acum în sfârșit am reușit. Cred că sunt vreo 2 ani de când ne chinuim din pas cu pas.
Señora, aprovecho y gracias.
Regalo remate, güera.
Se va de regalo, se va de remate.
Aproveche, regalo remate, güera.
Venga, a ver, aproveche.
50 pesos. Regalo, regalo, se va de remate, mira.
20 varas, 20 pesos, mira.
Aproveche, regalo remate, güera.
Refrescos de lata 12, 3 por 12.
15 pesos.
100 varas. Se va de 100 varas.
Aquí se va a ver, aproveche, checa, checa,
güera.
C'est un morceau très particulier, ce morceau, et je suis très heureuse que vous avez choisi ça comme extrait, parce que ça illustre parfaitement la différence entre le travail de prise de son et puis la construction d'un vrai objet sonore. Félix Blum, bonjour.
Oui, bonjour, merci beaucoup.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que nous sommes en train d'écouter?
Alors, ce qu'on entend, c'est un moment qui est au début de la pièce sonore Les Cris de Mexico, donc Los Gritos de México. Donc c'est un travail que j'ai fait en 2013-2014 à Mexico City, où je suis basé depuis quelques années, même si je gravite pas mal et navigue pas mal, mais ça reste la base. Et donc ce qu'on a entendu, c'est les crieurs, c'est les vendeurs, c'est ceux qui vendent des marchandises à la sauvette dans les rues du centre de Mexico, comme dans beaucoup d'autres villes d'Amérique latine, mais aussi d'autres pays du monde. Et donc au départ, on entend l'ambiance, une ambiance assez similaire à ce qu'on pourrait entendre dans la rue quand on s'y balade. Et petit à petit, il y a une construction qui est faite, une composition avec ces voix, en fait, que j'ai enregistrées de manière séparée pour pouvoir justement composer avec, jouer avec. Et ce son-là, c'est le son qui m'a le plus marqué la première fois que je suis allé au Mexique en 2009, quand je suis arrivé là-bas, où je vivais justement dans le centre. Et donc ces sons-là, j'aimais l'idée de pouvoir les écouter comme un chœur, se dire que ça pouvait être aussi un chœur polyphonique, que ça pouvait être des voix de la ville, et que c'était une forte identité sonore qu'on a eue dans beaucoup de pays, qu'on avait aussi en Occident, mais qu'on a perdu depuis longtemps. Cette idée de vendre dans la rue et de crier, ou en tout cas elle est fortement réduite. Et donc voilà, c'était composer avec ses voix pour pouvoir aussi proposer une écoute différente ou une écoute qui serait plus proche d'une écoute chorale, quoi, ou peut-être musicale.
Pour expliquer un peu techniquement comment cet enregistrement a été réalisé, c'est-à-dire que vous avez enregistré en studio ou vous avez fait des prises de son sur ce marché, comment vous avez réussi à isoler complètement ces voix?
Alors, ça a pris beaucoup de temps parce qu'en fait, il faut savoir que cette rue, il y a plusieurs rues dans le centre où les gens vendent, et donc c'est pas autorisé. Donc ils ont ils négocient avec les policiers qui sont là en fixe, mais il y a parfois des patrouilles qui passent, genre toutes les 5-10 minutes. Donc toutes les 5-10 minutes, ces gens-là doivent partir à la sauvette, se cacher et revenir. Et donc ils ont très peur de tout ce qui est photo et micro. Pour eux, ils font pas trop la différence. Ça pourrait être
possible. Sauf que vous arrivez avec une grosse machine.
Avec un gros micro, voilà. Donc c'est un plus. Donc ouais. J'essaie avec un gros micro. On m'a vite fait comprendre que c'était pas une bonne idée.
Ouais.
Et assez, on me l'a fait bien comprendre. Donc j'ai changé de technique. Après, j'essaie des petits micros cachés ou plus ou moins cachés ou en tout cas moins apparents. Et ça marchait plus ou moins. Le résultat était du coup pas si intéressant que ça en termes sonores. Et donc finalement, la technique qui a fonctionné, c'était d'aller à l'endroit où ils vont quand les policiers passent, où ils vont c'est une cour intérieure d'une maison, mais il y a aussi un endroit, une petite boutique où ils peuvent acheter un Coca-Cola ou un truc à manger. Et c'est aussi l'endroit où ils laissent leurs marchandises pendant la nuit. Et donc, du coup, c'est là que j'étais, c'est là que j'ai commencé à prendre contact avec eux, à leur expliquer que j'étais ingénieur du son, que j'aimais enregistrer les sons. Et voilà. Et une fois que la première a été d'accord de faire l'enregistrement, donc dans ce lieu, donc c'est pas un studio mais c'est un endroit plus calme, et on a beaucoup utilisé la pièce où dans laquelle est gardée leur marchandise, et c'est là qu'on a fait tous les enregistrements de ces gens-là de manière séparée. Mais ça a pris du temps évidemment d'avoir leur confiance et que ils comprennent pourquoi est-ce qu'on voulait ça ou quel était l'intérêt de ça.
Yeah. Oh, oh, wow. Oh, oh.
L'ha costretto in Romania. Hai. 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 Di. Hai. Hai, tata. Hai. Di. Hai. 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 Di. Ho. 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 Di. Hai. Di. Hai. Ho. Di. Hai. Ho. Hai, tata. Hai.
En fait, avec ce son que j'ai compris peut-être quelque chose que vous essayez de créer un langage qui vous est propre, qui vous est très particulier. Tout commence doucement avec une prise de son apparemment tout à fait classique et à un moment donné tout s'accélère et les sons se mélangent. On sent bien qu'il y a des sons qui ont été rajoutés pour créer tout simplement. Je ne sais pas, je vous laisse nous expliquer qu'est-ce que vous essayez de nous faire entendre en fait.
Alors, il y a probablement plusieurs lectures possibles, mais moi ce qui m'intéresse, un peu comme dans la première qu'on a entendue dans cet extrait, hein, c'est-à-dire c'est la voix, mais pas vraiment par rapport aux mots. C'est pas les mots qui m'intéressent, c'est plutôt la voix en elle-même et voir qu'est-ce que nous raconte la voix. Et donc je trouve que justement en étant dans un pays, donc en Roumanie, dans une langue que je ne comprends pas, et donc dans un village où la plupart des gens ne parlent ni le français ni une langue commune. Donc voilà, c'est m'intéresser de plus en plus à cette voix-là. Et donc dans l'occurrence, c'était la voix de ces hommes qui parlent aux chevaux sur la charrette. Mmh. Alors au début, en effet, on a cet enregistrement sur la charrette et ensuite, sur la fin de l'extrait qu'on a entendu, on a la voix sortie de son contexte, c'est-à-dire que j'ai fait réécouter en fait à Titel qui était sur la charrette. J'ai fait réécouter les sons et je lui ai redemandé de refaire ces sons-là, de m'expliquer. Et donc ça me fait une matière sonore qui est sortie de son contexte et qui permet du coup de porter l'attention sonore sur ce qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire cette voix, et qui devient du coup un peu aussi peut-être musicale, ou en tout cas qui devient une sorte de suite d'onomatopée où on perd peut-être l'utilité principale, enfin l'utilité première, mais justement pour le porter une autre type d'écoute.
Félix Blum, j'aimerais bien vous connaître un peu mieux et puis comprendre un peu votre parcours professionnel. Donc vous êtes originaire de Narbonne, une ville que j'ai visitée et que j'adore, la Via Domitia, la preuve que les Romains savaient faire des bonnes routes. Ah, chez nous, on a un gros problème avec ça. Et puis vous êtes ingénieur du son et aussi artiste sonore. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous travaillez beaucoup pour le cinéma, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Alors voilà, donc je suis en effet né dans le sud de la France et puis j'ai étudié en Belgique dans une école de cinéma dans l'option son. Et donc au départ et encore maintenant, voilà, je suis d'abord...
Pourquoi le son?
Alors ça, c'est une bonne question, mais c'est au départ un attrait pour la musique et dans l'envie de travailler. Je me voyais pas vraiment musicien, mais j'avais envie de rester dans ce monde musical. Et tout départ, donc c'était plutôt pour faire de la sonorisation pour des concerts. Et puis petit à petit, voilà, en fait c'est avec les études que j'ai découvert le cinéma, que j'ai découvert le son pour le cinéma.
Que le son crée des images.
Que le son crée des images aussi en soi. Mais au départ, vraiment, je suis preneur de son pour surtout du documentaire. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait pendant mes études et puis juste après avoir fini les études en Belgique. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à varier les plaisirs, à faire un peu aussi du montage son, aussi du mixage, aussi de la prise de son pour la fiction. Je travaillais aussi pour la radio comme ingénieur du son. Je travaillais aussi avec les artistes plasticiens qui travaillent le son aussi. Et c'est comme ça que j'ai découvert aussi toutes les facettes possibles du son et que c'était possible de le faire. On a tendance en cinéma à fragmenter beaucoup les postes et à se dire si tu es preneur de son, tu es preneur de son, si tu es mixeur, tu es mixeur. J'ai pris goût à essayer de pouvoir mélanger ces différents travaux, ces différents métiers, et peut-être travailler le son plus comme un artisan, et donc devenir aussi peut-être ce qu'on appelle artiste sonore, mais qui en fait moi je vois ça plus comme travailler des projets personnels, peut-être de la même manière que je pourrais le faire pour un film ou pour un projet de quelqu'un d'autre.
Quelles sont les particularités de tous ces métiers en fait que vous pratiquez? Est-ce qu'il y a des grandes différences entre la prise de son pour un documentaire que pour un film de fiction, ou comment ça se passe?
Bon, il y a beaucoup de différences dans la manière de faire, surtout parce que film de fiction, c'est des grandes équipes, c'est des, peut-être 30, 40, 50 personnes, même voire plus, donc c'est une hiérarchie, donc c'est une manière de c'est une démarche très différente. Mais ce que j'aime surtout voir, c'est le point commun dans toutes ces dans tout ça, c'est et qui est le son. Et en espagnol, on a ce mot sonédiste, donc qui est quelqu'un qui travaille le son et qui s'applique un peu à tout le monde.
Sonétiste.
Et voilà, ici vous avez sonétiste, ça j'ai appris, j'ai découvert ça pendant la résidence. En français, on n'a pas vraiment ça, ou en tout cas, il n'y en a pas un nom qui servirait. Mais j'aime bien que voilà, que ce soit le peintre travaille la peinture, qu'il soit peintre en bâtiment, qu'il soit portraitiste, qu'il soit peintre abstrait. Et où le plombier travaille le plomb, et donc j'aime bien que le sonnettiste travaille le son, et que finalement, voilà, c'est un, peut-être une matière comme une autre qu'on travaille.
Par contre, aidez-moi, parce que là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un nom. En France, à la radio, on a un autre métier qui consiste à recréer des sons qui sont comme des vrais sons, en fait.
Comme bruiteur.
Bruiteur, exactement. Voilà. Alors là, est-ce que pour vous, le bruiteur, c'est quoi?
Bon, bruiteur, j'ai pas encore vraiment fait. Parce que lui, le bruiteur, c'est assez clair, il crée des bruits.
Il crée des bruits, ouais. Mais il attrape pas des sons.
Normalement, non. Le bruiteur, il recrée en studio, c'est ça?
Oui, oui. Il y a une espèce de concurrence, compétition entre le bruiteur et qui fait prise de son ne fait pas bruiteur.
Non, il peut y avoir parfois, ça arrive souvent qu'on crée des sons comme ça de manière ponctuelle, mais évidemment, on n'est pas bruiteur comme ça. Et d'ailleurs, c'est un travail qui est énormément demandé, où il y a très peu de gens qui sont bruiteurs. Donc, c'est un bon, il y a beaucoup de travail comme bruiteur, donc c'est une bonne carrière professionnelle à suivre.
L'ingénieur du son est celui qui fait des prises de son, fait des prises, des vrais sons. Donc, votre vie se passe souvent en dehors, non?
Oui, c'est ça.
Avec une perche, avec un grand micro, et puis un grand sac. Sac avec un appareil. Alors, parlez-moi un peu de votre équipement. Vous travaillez sur quel type de matériel?
Alors, bon, je sais pas trop technique, mais en fait, j'utilise...
Bah, si, pour les gens qui nous écoutent et qui savent un petit peu.
Ah, d'accord. Très bien. Alors, je vais rentrer dans les détails. Moi, j'utilise beaucoup des enregistreurs de marque Sound Device, mais il y en a d'autres, évidemment, d'autres marques, et c'est surtout parce que j'ai l'habitude de travailler avec ce type de matériel. Donc, sur ces Sound Device, on a différents modèles qui peuvent être 6-3-3, 7-8-8. Je vais parler de ceux que j'utilise, mais donc, qui ont plus ou moins de pistes d'enregistrement. Ensuite, en termes de micro, c'est là que je trouve que le plus intéressant et le plus important probablement, puisque les micros sont ceux qui capturent vraiment ce son. Et là, j'aime beaucoup, et on a essayé justement pendant cette résidence workshop de travailler ça, d'enregistrer avec différents types, donc avec des couples stéréo ORTF, MS ou AB, principalement, mais aussi avec des micros hydrophones, par exemple des micros qui permettent d'enregistrer des sons sous l'eau, ou des micros de contact qui permettent d'enregistrer les vibrations, ou encore des capteurs d'ondes électromagnétiques qui permettent de les rendre audibles. Et donc c'est vraiment dans la captation et dans ces outils de prise de son que je trouve que une grande partie de la magie ou de la matière se récolte.
Quel investissement en fait, parce que j'imagine que tout ça vous appartient.
Oui, c'est ça. Alors, c'est extrêmement cher.
Oui, j'imagine. Oui.
Et on s'en rend pas vraiment compte. Et,
ça vient petit à petit parce que vous n'achetez pas tous les 4 matins.
Non, évidemment. Surtout, c'est des investissements qui sont, des micros. Il faut savoir que ce type de micros, c'est des micros qui sont avec des très grandes durées de vie. Donc, c'est vraiment, des investissements sur du très long terme. Et c'est vrai qu'on a parfois, on n'imagine pas vraiment combien coûte le matériel son. Si je dois parler d'une valeur comme ça globale, on est peut-être dans les 30 000 euros plus ou moins du matériel que j'ai avec moi pour le moment. Ooh.
Alors quand on a un bon micro, il se trouve qu'on peut enregistrer des choses absolument formidables au ras du sol. Et ce morceau, c'est un extrait en fait d'un morceau plus long. Tout ce qu'on on a entendu ce matin, ce sont juste des extraits, parce que vos morceaux en général sont plus de 10 minutes, font plus de 10 minutes.
Ça dépend desquels, ouais. Celui-là, il dure 5 minutes. Ouais. Mais en tout cas, tous les morceaux, toutes les pièces sont écoutables et téléchargeables gratuitement sur Internet.
Oui, sur votre site, Félix Blum, ça s'écrit B-L-U-M-E, non, avec un M, pardon,
.com.
Voilà. Mud Dog, ça s'intitule ce morceau.
Voilà, c'est ça.
Il s'agit en fait de rentrer dans la vie des chiens de rue.
Voilà, cette fois les prises de son étaient faites par les chiens eux-mêmes, puisqu'on a équipé donc des chiens de rue. Donc je dis on parce que c'était un travail qui a été fait en collaboration avec Sarah Lana au Brésil. Et donc c'est des micros de type binauraux, de type donc c'est-à-dire des micros qu'on met d'habitude sur des humains à l'oreille, à la hauteur des oreilles, pour enregistrer au plus proche de ce qu'on entend avec les avec les oreilles, avec les tympans. Et voilà, ces micros-là, on les a mis sur des chiens de rue. Donc et on les a laissés voilà nous raconter leur vie, enregistrer leur vie. Et donc on entend comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils essaient de rentrer dans les maisons, parfois se battent, parfois courent derrière les motos qui passent. Et voilà, pendant quelques minutes, on peut s'être dans la vie sonore d'un chien de rue.
Alors, un, comment on fait pour mettre un micro à un chien? Deux, comment on fait pour récupérer le micro du chien? Et trois, j'imagine que vous avez eu des heures absolument incroyables. Comment on fait le montage d'un son pareil? Comment on choisit? Comment vous triez des sons? Parce que vous devez avoir des quantités absolument astronomiques de sons, non?
Oui. Alors je vais répondre aux questions à l'envers. Donc la troisième, c'est donc pour le montage, mais c'est sûr que c'est toujours un peu le problème, hein. Enfin, ou en tout cas c'est une longue étape de travail avec les chiens de rue, mais en général aussi parce qu'on en a vite des heures et des heures d'enregistrement. Et puis dans ces heures-là, il faut en fait les écouter. Et puis les écouter, puis les réécouter. Et c'est vraiment l'écoute qui est, je pense, au centre du travail de prise de son, mais aussi de création sonore. C'est l'écoute sur place, même avant d'enregistrer. C'est l'écoute quand on est en train d'enregistrer. C'est l'écoute des rushs. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire petit à petit le tri, à réduire des heures de rush à 5 minutes pour cette pièce donc de Mud Dogs qui a été faite pour Arte Radio. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour mettre des micros sur des chiens de rue? Donc en fait, Sarah Lana, elle était dans une résidence artistique dans ce petit village au Brésil, et elle avait déjà travaillé, elle avait un projet avec les chiens de rue justement, et donc elle avait déjà repéré, puis en fait on a aussi ensemble repéré les chiens qui étaient déjà qui se laissaient approcher, et puis finalement qui étaient assez sympas et assez intéressants. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on leur mettait un collier où on accrochait un petit Zoom H1, donc qui est un des plus petits enregistreurs qu'on peut trouver, sur lequel on branchait des micros externes et qu'on mettait accroché via un collier sur les chiens. Et donc en fait on suivait plus ou moins de loin quand même le chien, surtout parce qu'on avait peur de perdre les micros. En fait c'était ça, surtout la peur, parce que les chiens reviennent toujours à un moment donné, et l'enregistreur était bien accroché, mais les micros pouvaient facilement s'accrocher dans une herbe ou quelque chose comme ça. Et donc on récupérait ensuite le micro sur les chiens. Et on a donc changé, voilà, on a changé, puisque c'est 5-6 chiens différents qui nous font découvrir leur monde canin.
Alors, je voudrais comprendre un peu mieux quel type d'histoire vous aimez raconter. J'ai vu qu'il y a quand même un volet un peu engagé. Vous avez travaillé aussi avec des personnes malvoyantes ou des aveugles. Je sens un petit engagement derrière, récupérer cette histoire de récupérer des sons et puis créer des histoires avec.
Alors, je pense que le son a quand même cette très grande force de ne pas montrer et donc de laisser imaginer. Donc, je crois que c'est quelque chose qui fonctionne et fonctionne de plus en plus avec aujourd'hui le podcast, avec la radio qu'on écoute, le téléphone et des écouteurs, voilà, on peut se retrouver tout de suite ailleurs, on peut voyager, et donc ça je pense que c'est une grande force du son, et donc du coup de nous raconter des histoires, et pas forcément des histoires qui se racontent avec des mots, mais des histoires avec des sons qui laissent encore plus l'imaginaire, je pense, nous transporter ailleurs. Et ensuite pour le côté engagé, ben je pense que on se préoccupe beaucoup pour l'architecture des villes, pour la culture des villes, et parfois pas trop pour l'identité sonore, pour le côté voilà, qu'est-ce que nous racontent les sons sur un lieu, quelle identité sonore ont ces lieux. On a tendance à avoir une homogénéisation avec finalement des voitures qui peuvent être certes un peu différentes, mais qui sont pas très différentes en termes sonores, ou des climatiseurs dans les rues. Et donc je trouve que c'est important de prendre conscience du son, puisqu'en fait c'est des outils qu'on a, enfin les oreilles, tout le monde a des oreilles, et tout d'un coup on prend ce temps-là pour écouter. Mais je trouve que c'est quelque chose qui peut nous apporter beaucoup, et qui peut aussi nous apprendre voilà, appréhender le monde d'une autre manière. Écouter finalement, c'est aussi écouter l'autre, c'est aussi écouter ce qui nous entoure, c'est aussi prendre le temps dans un monde qui va quand même de plus en plus vite. Le son a cette grande caractéristique qu'il a besoin de temps. On peut pas écouter un ton son si on n'a pas de temps. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on prend un peu de temps aussi à chaque fois pour écouter ces extraits. Donc voilà, je pense que tout ça, c'est des choses qui sont véhiculées par le son et par le sonore, et qui sont des sujets qui m'intéressent évidemment.
Comment on vit? Est-ce qu'on peut vivre normalement quand on a une oreille formée pour écouter les sons comme ça? Parfois les villes ou les endroits qui nous entourent, enfin des endroits sont particulièrement bruyants ou nous agressent.
Alors, est-ce qu'on peut vivre normalement, je sais pas, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a un peu cette formation professionnelle de commencer à détailler, à toujours un peu décomposer en fait ce qui se passe. C'est ça, c'est qu'on essaie de décomposer en se disant bon ben là je suis ici, mais en fait il y a pas qu'une ambiance, il y a aussi au loin ça.
Tout le temps. Vous vivez comme ça tout le temps.
Bon, j'essaye de
vous montez dans un bus, vous entendez des histoires autour de vous, vous décomposez les sons.
Oui, j'ai tendance à faire ça. Mais après, par rapport au côté bruyant, j'aime bien justement se dire qu'en fait, si c'est un lieu est bruyant, c'est qu'il y a beaucoup de sons, et donc peut-être que ce bruit, en fait, peut-être que c'est justement une richesse sonore. C'est un endroit où, oui, il y a des sons qui peuvent nous agresser, mais aussi il peut y avoir plein de sons, et de se dire, c'est John Cage, il dit si y a un son vous dérange, écoutez-le. Ou si un bruit vous dérange, écoutez-le. Et donc voilà, j'aime bien cette idée-là de se dire que si quelque chose est dérangeant, ben alors pourquoi ne pas s'y attarder, pourquoi pas l'enregistrer et voir qu'est-ce qu'on peut en faire.
Expliquez-moi.
Donc là, on est en terre de feu, donc au sud de l'Argentine, en Patagonie, sud de la Patagonie, et on entend des cris. Ce sont les bergers en fait de ces immenses fermes. Là, c'est 14 000 hectares que fait cette ferme, et en fait, à un moment donné, il faut récupérer tous les moutons, les ramener à la ferme centrale pour pouvoir les tondre. Et donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'ils se mettent sur une ligne imaginaire, plus ou moins à 100 mètres chacun l'un de l'autre. Et il crie pour effrayer les moutons, mais aussi il crie pour savoir où se trouvent les autres. Donc chacun a son cri, ça permet de savoir si on est trop en avance par rapport à cette ligne ou si on est trop en retard, puisqu'on est dans la forêt et qu'on se voit pas forcément. Et donc on entend aussi petit à petit voilà les chevaux, parce que certains sont en chevaux, on entend les moutons qui petit à petit sortent et se rassemblent. Et puisqu'on sait que les moutons, voilà, quand ils ont peur, ont tendance à se rassembler, et comme ça ils sont poussés jusqu'au coin du champ. On ouvre la porte, on les fait passer au champ suivant, et ainsi de suite jusqu'à qu'ils arrivent à la ferme centrale. Donc c'est plus ou moins 4000 moutons qui arrivent au final pour se faire tondre. Voilà.
Quelle belle histoire. Ciao, ascoltiamo in sera già sta.
Bine, eu am niște lucruri pe care aș vrea să le ascult, dar până la urmă Felix va hotărâ ce surpriză o să ne facă. El știe că Lecri de Mexico a mai fost ascultate și în atelierul cu Silvan Gir de la Art Radio și postat și repostat pe Facebook, dar eu tot sper că o să-l ascultăm. Ideea e să ne facă un portret al muncii lui pe durata unei ore, oră și 20 de minute. Și înainte, pentru vreo 20 de minute, vom asculta doar o mică selecție din câteva din piesele produse de artiștii care au participat la rezidența la Conacote Terișanu. Toate celelalte piese și piesele în integralitate produse în cadrul rezidenței vor fi urcate pe semisilent.ro, vor deveni podcasturi și vor putea fi ascultate și prin butonul de podcast de pe telefoanele mobile. Abonați-vă la Semisilent, e gratuit și veți călători fără întrerupere.
Se întâmplă în această seară de la ora 20 la Apollo 111. Félix Blum, dernière petite question parce qu'il nous reste environ une minute. Est-ce que vous avez un son que vous n'avez pas réussi à capter pour l'instant?
Alors il y a plein de sons qu'on imagine justement, et c'est bien d'avoir des sons rêvés ou des sons qu'on aimerait bien enregistrer. Donc dans cette liste de sons, il y a notamment le son des icebergs, le son de la glace qui s'entrechoque. J'ai eu l'occasion de voir un petit peu sur YouTube ou d'entendre des choses, et j'aimerais bien voilà enregistrer ce son, cette glace. Mais il y a aussi des lieux, des espaces que je ne connais pas, comme par exemple la Sibérie ou la Russie même, qui est un pays immense et qui est pas beaucoup enregistré, pas beaucoup écouté. Donc ce sont voilà deux envies parmi plein d'autres, et j'aime surtout les surprises sonores, les sons qu'on n'imagine pas mais qui se portent à nous et qu'on peut enregistrer tout d'un coup.
Donc des sons à rêver et des voyages à venir. Merci beaucoup.
Merci, mucho merci.